Et pour terminer cette émission, on finit sur la chronique de Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors ce mois-ci, on évoque le tout début du XXe siècle, époque à laquelle les patronages catholiques s'affirment dans le paysage associatif des campagnes mayennaises. S'ils s'affirment au début du XXe siècle, cela veut donc dire que les patronages catholiques existaient bien avant ?
Oui, effectivement, les premières expériences de patronage catholique, c'est-à-dire d'associations organisées par des religieux à destination d'un public de jeunes et à l'origine exclusivement des garçons, avec un objectif ludique, ce sont d'abord des expériences que l'on trouve dans les grandes villes à partir des années 1830, comme à Marseille ou dans la région à Angers. Mais ces premières expériences, elles restent très limitées parce que la hiérarchie ecclésiastique n'est pas très convaincue de l'utilité de telles structures et préfère appeler le clergé local à se consacrer à un rôle strictement pastoral. Il n'empêche, en 1877, de manière quasiment simultanée, à Cran et à Cossé-le-Vivien, on voit apparaître les deux premiers patronages ruraux mayennais que j'ai pu répertorier. Ils se présentent comme des déclinaisons des sociétés de cure, hein, ces sociétés de loisirs qu'on a déjà évoquées dans cette chronique, qui étaient présidées par le curé, mais qui étaient réservées à un public d'hommes majeurs. Ici, dans ces patronages, on peut intégrer la structure dès l'âge de 12 ans et y participer jusqu'à son mariage, ce qui fait d'ailleurs que des vieux célibataires peuvent fréquenter encore le patronage à plus de 30 ans. Et dans ce patronage-là, on peut y pratiquer, je cite, « des récréations honnêtes » et y avoir, je cite toujours, un agréable passe-temps, c'est-à-dire qu'on y lit, il y a un cabinet de lecture, on y joue en salle ou en extérieur.
Mais ces deux patronages, justement, à Cran et à Cossé-le-Vivien, ça reste des exceptions à la fin du 19e ?
Oui, effectivement, comme je le disais, la hiérarchie ecclésiastique n'est globalement pas très encourageante pour ce genre de projet qu'elle considère comme une perte de temps pour le clergé local. Même les lois portées par le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, en 1881 et 1882, qui fondent une école obligatoire, gratuite et laïque, ne portent pas l'église locale à réagir, tout du moins en Mayenne. Sans doute, le clergé local considère-t-il que le poids du catholicisme est si fort dans le département que rien ne peut vraiment l'affaiblir.
Mais alors, qu'est-ce qui change en fait au début du XXe siècle ?
Eh bien, ce qui change, ce sont deux lois. Tout d'abord, la loi du 1er juillet 1901 qui définit le statut des associations et leur liberté d'action en opposition avec les congrégations religieuses sur laquelle l'État garde un contrôle assez strict. Et puis surtout, la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État met le feu aux poudres localement avec des troubles importants en Mayenne. Et à partir de là, la création de patronages destinés aux jeunes devient pour la hiérarchie catholique, notamment pour l'évêque de Laval qui s'exprime sur le sujet, un moyen de résistance face à la laïcisation. Et ces patronages deviennent aussi nécessaires que le catéchisme.
Et du coup, comment s'organise un patronage ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ?
Alors, l'Église catholique, elle n'est pas bête, elle évolue avec son temps et elle veut attirer un jeune public. Donc, il ne faut pas se contenter de lecture ou de jeux de cartes comme autrefois. Et les patronages donc, se mettent à la gymnastique, au tir, au sport en général et au foot en particulier. Et dans les années 1920-1930, le jeudi et le dimanche, les jeunes vicaires, qui sont les adjoints des curés, proposent des sorties dans les bois pour faire des cabanes, organisent des courses de vélo dans la campagne, des séances de cinéma, des représentations théâtrales. Et ça marche. Ça marche auprès des jeunes garçons, mais aussi des jeunes filles qui, elles, vont être encadrées par des religieuses ou des femmes recrutées parmi les fidèles du village. Entre 1909 et 1939, une association sur deux destinée aux jeunes dans les campagnes mayennaises est un patronage. Et donc, on en compte, à la fin de ma période d'études, plus d'une trentaine à l'échelle du département. Et si vous voulez vous rendre compte un petit peu de ce dynamisme des patronages catholiques, je vous conseille le visionnage en ligne sur le site internet des archives départementales de la Mayenne, des petits films qui ont été tournés à Pré-en-Paille au début des années 1930 par Georges Guenou, qui est un secrétaire du patronage catholique local, l'Intrépide.
Et cet essor des patronages catholiques ne pose aucun problème justement à l'État laïque ?
Ben, si, en fait, et on peut constater qu'en France, l'État a toujours eu du mal avec la liberté associative. À l'heure aujourd'hui où l'État demande à chaque association un contrat d'engagement républicain pour lutter contre le séparatisme, il est amusant de constater que dans les années 1910-1930, ce qui est craint par l'État, c'est le séparatisme catholique. Par exemple, pour faire du tir, il faut un agrément préfectoral pour avoir des fusils et des balles. Et donc, tout intervenant d'un patronage catholique doit montrer patte blanche républicaine, sous peine de se voir privé de moyens matériels et financiers, voire de se faire interdire la création de l'association. Et l'avis que l'État se fait de tel ou tel dirigeant associatif dépend souvent de l'avis du maire de la commune. Et donc, nous reviendrons le mois prochain sur ces relations complexes entre associations et municipalités.
Tout un programme. Merci beaucoup, Christophe.
Au revoir.